Alors, je m'appelle Raphaël Le Brujat, je suis journaliste, je fais des chroniques sur Rojinfo et je suis allé au Rojava, donc la partie du Kurdistan syrien qui se situe actuellement au nord de Syrie, et c'est pour ça que j'en parle et que je travaille également avec la communauté kurde en France pour mieux faire connaître leur situation et leurs projets. Voilà. Le Névroz, en fait, c'est une fête qui a longtemps été interdite en Turquie, mais en Syrie, mais également en Irak, et pas exactement en Iran, parce qu'en fait en Iran, enfin, des situations différentes, mais qui était globalement interdite par les différents états de la région. Et c'est une symbolique en fait contre les tyrans, c'est-à-dire que c'est le jour où le forgeron Kawa, donc au moment du printemps, a tué un tyran et a libéré en fait le peuple kurde à l'époque. Voilà, donc c'est une symbolique de lutte contre la tyrannie, le Névroz. C'est une attaque, en fait, c'est une attaque symbolique, c'est-à-dire que c'est une manière de montrer par ces bandes djihadistes qu'elles sont justement dans la destruction de cette culture kurde, mais aussi visiblement la lutte contre les tyrans ne sont pas d'actualité pour eux, quoi. Alors, Afrin, pour faire court et simple, les Kurdes donc étaient majoritaires dans cette région, ils occupaient depuis 2012 cet espace en pratiquant leur projet politique, le confédéralisme démocratique, et ils étaient isolés, c'est-à-dire qu'ils étaient entourés par soit des rebelles à tendance islamiste et djihadiste, soit le régime syrien. Et dans cette enclave, qui est frontalière avec la Turquie, l'État turc a pu intervenir avec l'aide des djihadistes grâce au feu vert de la Russie, qui contrôle l'espace aérien, et qui a laissé rentrer donc l'armée turque à Afrin contre les Kurdes. Les autres puissances de l'OTAN, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, n'ont rien dit et n'ont pas agi contre cette intervention, avec un certain silence complice. Et aujourd'hui, il est très regrettable, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est installer un sanctuaire de djihadistes, en fait, qui ne cachent pas leurs intentions et leur velléité contre ce qu'ils appellent les croisés, donc notamment l'Occident, mais aussi les minorités sur place, les yézidis qui cherchent à exterminer, les Kurdes également qui cherchent à éliminer. Et donc c'est une très mauvaise nouvelle, cette arrivée de l'armée turque dans Afrin, qui aujourd'hui occupe la ville, je le rappelle. Mais une guérilla a été mise en place par les Kurdes, et tous les jours il y a encore des affrontements dans la région contre l'occupation turque. Voilà. Il a commencé à intervenir en Irak. Nous verrons ce que cela donne, parce qu'il a aussi des bases militaires turques et il a déployé dans 28 villages dans le Sinjar ses troupes, ce qui est fortement inquiétant, parce que le Sinjar, c'est là où la minorité yézidi a eu un génocide en fait contre la minorité yézidi dans le Sinjar en 2014 par l'État islamique, et l'État turc est sur une ligne exactement anti-religieuse et très raciste également contre cette minorité, ce qui est inquiétant. Mais en même temps, l'État irakien refuse cette intervention, donc nous allons voir si la Turquie est prête à continuer et à prendre le risque de se confronter à l'État irakien. Donc on verra. Et globalement, le Rojava, pour le moment, les États-Unis ont dit qu'ils protégeaient ces zones. Ils ont d'ailleurs renforcé leur soutien à Manbij, la zone frontalière que convoite la Turquie. Mais nous ne sommes absolument pas à l'abri que, bien sûr, les États-Unis, à un moment ou un autre, il en décide qu'il en soit autrement et lâche leur allié kurde syrien. Voilà. Ce que je dirais, moi, c'est que l'opinion publique est quand même favorable aux Kurdes. Ils ont vaincu Daesh, ils savent qu'ils ont gagné à Kobané contre Daesh, ils savent qu'ils ont gagné à Raqqa contre Daesh, mais ils connaissent mal effectivement la communauté kurde, et l'image de la Turquie est très, très déplorable en comparaison. Voilà. Donc en fait, on a une grosse possibilité de mobilisation sur cette question, mais je pense que des organisations ou certaines organisations n'ont pas encore saisi la gravité de la situation, et j'espère qu'elles appelleront à se mobiliser beaucoup plus qu'elles n'ont fait, parce qu'aujourd'hui on a clairement besoin d'arrêter ça, parce que si aujourd'hui ils perdent au Rojava, c'est aussi une défaite pour l'avancée des droits humains, de la démocratie ici d'une certaine manière. Donc il ne faut pas laisser la barbarie s'installer là-bas au risque qu'elle vienne chez nous. Alors, le confédéralisme démocratique a 4 piliers, on pourrait les résumer de la façon suivante. La démocratie, donc ils font une démocratie qui part de la base avec des communes, des assemblées locales, que j'ai moi-même constaté sur place, qui sont auto-organisées et où en fait la vie est vraiment gérée au niveau parfois de la rue, du quartier, et où les gens ont une véritable liberté d'expression, une liberté politique. Il y a d'ailleurs par exemple dans l'Assemblée législative de Djezire, une des régions, plus de 25 partis politiques représentés, avec une vraie polarité politique. Ensuite, il y a également l'autre pilier, le féminisme, c'est-à-dire que les femmes sont très représentées dans les institutions de manière totalement paritaire, c'est-à-dire que chaque poste électif, enfin presque chaque poste électif, est co-présidé par un homme et une femme. Ce qui fait qu'il y a une parité très grande. Par exemple, à l'Assemblée législative de Djezire, on avait quasiment la parité totale. Il y avait 101 personnes et 50 femmes. Voilà. Donc, ce qui montre quand même à un niveau plus avancé qu'en France. Mais on a, oui, et nous avons également un droit de veto, par exemple, sur toutes les lois. Les femmes ont le droit de dire non. Par exemple, si une loi leur déplaît parce qu'elles considèrent qu'elle est sexiste, ils peuvent la bloquer. Voilà. Donc, il y a quand même une part importante de la femme. Il y a l'autre pilier, c'est l'écologie, parce qu'ils sont pour une façon écologique de vivre. Ils sont notamment influencés par Murray Bushkin, le fondateur de l'écologie sociale, qui justement prône une vie démocratique dans un environnement écologique et une gestion environnementale écologique. Et il y a également un autre pilier qui est le socialisme, c'est-à-dire l'égalité, donc vers un partage, une forme de partage des richesses. Pour ça, ils mettent en place des coopératives avec une limitation des parts qu'on peut avoir dans l'entreprise pour pas qu'il y ait de concentration de richesses et que les choses soient équitablement réparties entre les individus qui y travaillent. Oui, c'est ce système, exact. En fait, c'est même assez incroyable d'arriver à le mettre en place en pleine guerre civile, qui favorise plutôt le contraire, des violences, de la dictature. Là, c'est au contraire. Par exemple, il y a eu des élections, là récemment, massives, dans les cantons, qui ont vu quand même 70% du corps électoral participer aux élections, ce qui est considérable en pleine guerre civile. Hein. Donc, avec des élections qui ont aussi montré leur part de démocratie, parce que de nombreux candidats qui n'étaient pas forcément sur les listes du principal parti, le parti de l'Union démocratique, ont également été élus. Donc il y a aussi une représentativité assez large dans ces élections de toute la pluralité, bien que le PYD, le parti de l'Union démocratique, ait gagné ces élections. Voilà.
Il n'y a pas une majorité. Enfin, il y a pas. Une... Si, il y a peut-être une majorité.
Ah, oui,
de
oui.
Kurdes,
mais... Alors, il y a une majorité de Kurdes dans ces cantons, mais il y a beaucoup de minorités. C'est-à-dire que nous sommes dans un système multiconfessionnel et multiethnique qui est défendu au Rojava. Et donc, il y a beaucoup d'Arabes. Il y a également beaucoup de Syriaques, des chrétiens, là, qui parlent une forme d'araméen. Il y a également des Turkmènes, des Tchétchènes, des Tsirkartiens, enfin, tout un tas de peuples qui sont présents et des plusieurs religions, donc l'islam, sous plusieurs formes. D'ailleurs, il y a des chrétiens, des yézidis, et ces communautés aujourd'hui vivent ensemble et peuvent, dans un système multiconfessionnel où il y a une liberté de conscience, un peu comme dans notre laïcité à nous, où chaque personne peut croire comme bon lui semble, sans une imposition forcée d'un État. Voilà. Et donc, je pense que c'est un grand progrès. C'est aussi un système multilinguiste, c'est-à-dire que, par exemple, il y a trois langues reconnues, comme le kurde, l'arabe et le syriaque. Syriaque, première mondiale de reconnaissance, d'ailleurs, donc, locale de cette langue. Ah bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il nous faut, je pense, se mobiliser et nous défendre un système qui, aujourd'hui, apporte une solution alternative. Personnellement, je pense, par exemple, que, bien sûr, je suis content quand le Daesh est vaincu en Irak, mais l'État irakien n'apporte pas, je pense, de solution politique viable sur le long terme, alors que le Rojava propose une alternative politique qui permettra, je pense, justement, de réellement lutter contre le djihadisme, d'empêcher son retour et de permettre aux différentes populations du Moyen-Orient, dans toute leur diversité, de vivre ensemble. Alors, les prochaines séances, là, il y a des comités de soutien pour le Rojava qui se forment un peu partout, donc on invite les gens à y aller. Il va y avoir des manifestations organisées notamment régulièrement tous les samedis par la communauté kurde, et donc j'invite les non-kurdes à se joindre à ces manifestations, donc un peu partout en France. Ils peuvent se renseigner auprès des CDKF locaux, donc conseils démocratiques kurdes de France au niveau local, qui leur permettront et leur diront les événements qui se déroulent dans le courant des prochains mois. Voilà.
Merci.